Europe 1. Europe 1, Christophe Ondelatte.
Azouz Begag est un inclassable. C'est un rebelle. Il ne rentre pas dans les moules. Azouz Begag est un ambitieux que j'ai vu avec des étoiles dans les yeux le jour où il a été nommé ministre. Et avec des larmes dans les yeux quand il n'a plus été ministre. Azouz Begag a le sang chaud. Azouz Begag est un macho. Azouz Begag ne croit ni à Dieu ni à diable, mais tous les ans, il fait le ramadan. Azouz Begag est plein de contradictions. Alors s'il vous énerve, et surtout s'il vous énerve, venez avec moi. Je vous emmène là où il a grandi, au Chaaba. Et quand vous saurez, alors sans doute, vous lui pardonnerez tout. Nous voici en 1965. Azouz a 8 ans, au 12 avenue Monin à Villeurbanne, près de Lyon. Et là, vous imaginez une maison, un immeuble. Pas du tout. Au 12 avenue Monin, à Villeurbanne, dans ces années-là, les années 60, il y a un bidonville. Les habitants de l'endroit, qui sont tous des immigrés algériens, l'appellent le Chaaba. En arabe, ça veut dire le trou paumé. Et pour le coup, c'est paumé. Une trentaine de baraques de planches et de tôles collées les unes à côté des autres. C'est là qu'il habite, le petit Begag, avec son père, Bouzid, et sa mère, Messaouda, et toute la smala de ses frères et sœurs, Aïcha, Zora, Fatia, Moustaf, et lui, c'est le petit dernier. Qu'est-ce qu'il a fait, le père, pour mériter d'habiter avec 5 enfants dans une cabane en planche? Il n'a pas de travail? Il est au chômage? Pas du tout. Il est maçon dans une entreprise qui s'appelle L'Avenir. L'Avenir, tu parles? Non, c'est simplement qu'en 1965, en France, c'est la crise du logement. Et donc, dernier arrivé, dernier servi. Les immigrés algériens qui, au début, étaient célibataires, ont fait venir leur famille. Il n'y a pas de logement. Les Begags sont inscrits pour un HLM, mais la liste d'attente est très longue. Alors, en attendant, ils sont là, au Chaaba. Et depuis quelque temps, il y a un débat au Chaaba, à cause de Rabat, le cousin d'Azouz. Il a trouvé un moyen d'améliorer l'ordinaire. Les jeudis et les dimanches, quand il n'y a pas école, il va sur les marchés et il fait le tour des étals.
Il y a de l'embauche ? Il y a de l'embauche ? Il y a de l'embauche ?
Et il y a toujours quelqu'un pour lui proposer de charger ou de décharger la marchandise. En échange, on lui donne la pièce et surtout on lui donne des invendus. Et Rabat rentre au Chaaba, les bras chargés de fruits et de légumes. Et ça, je peux vous dire que ça fait causer dans les cabanes, y compris chez les Begags. Mais Saouda, la mère, est admirative.
Vous n'avez pas honte, feignant? Regardez Rabat, lui au moins il rapporte de l'argent et des légumes chez lui. Oh, pourquoi m'a-t-on donné des idiots pareils?
Et Azouz a 8 ans. Les marchés, ça ne l'emballe pas. Il préfère faire les 400 coups, il y a une forêt près du Chaaba. Avec ses copains, il a construit une cabane. Il a installé des pièges à oiseaux. Il est mieux là qu'au marché. Et là-dessus, il a le soutien de son père.
Je préfère que vous travailliez à l'école. Moi, je vais à l'usine, pour vous. Je me crève s'il faut. Mais je veux pas que vous soyez ce que je suis, un pauvre travailleur. Alors si vous manquez d'argent, je vous en donne. Mais je veux pas entendre parler de marché.
N'empêche que ça n'est pas lui qui décide, manifestement. Et le jeudi matin suivant...
Azouz ! Azouz ! Réveille-toi, il est 6 heures.
C'est son grand frère qui le réveille, pour aller au marché. Et c'est bien pour lui qu'il y va, le cousin Rabat donne les consignes.
Vous attendez qu'un marchand arrive à une place de camionnette et dès qu'il commence à installer ses étalages, vous allez vers lui et vous lui dites « Il y a de l'embauche, monsieur ? Il y a de l'embauche, monsieur, s'il vous plaît ?»
Et Azouz se met donc à arpenter les allées du marché. Au loin, son frère a déjà trouvé un patron. Il lui fait signe de se bouger les fesses. Mais lui, il n'a pas envie. Il a envie de pleurer. Et en même temps, il ne veut pas décevoir sa maman. Donc il y va, timidement.
Il y a de l'embauche, s'il vous plaît. Il y a de l'embauche, s'il vous plaît.
Et évidemment, personne ne veut de lui. Si, c'est une vieille dame pour décharger des cajots de salade.
Mais je peux te donner que 50 centimes seulement, gamin.
Et il accepte. Azouz Begag a 8 ans. Il vient de rentrer en cours moyen 1.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'enfance d'un ancien ministre, Azouz Begag, en m'inspirant du livre qu'il a publié il y a plus de 30 ans au Seuil, Le Gone du Shabbat, que vous trouverez aujourd'hui dans la collection Point Virgule. Il sera là bien sûr tout à l'heure pour le débrief de ce petit bout de son histoire. Azouz Begag a grandi dans les années 60 dans un bidonville, le Shabbat, à Villeurbanne, près de Lyon. Je vous ai raconté qu'à l'âge de 8 ans, pour aider ses parents, il faisait l'homme à tout faire sur les marchés. Contre l'avis de son père, qui lui disait « Moi je travaille pour vous, je me crèverai s'il faut, mais je ne veux pas que vous soyez ce que je suis, un pauvre travailleur. » Azouz, je vous l'ai dit, vient de faire sa rentrée en cours moyen 1. Et donc tous les matins, il quitte le Shabbat avec les autres, avec son cartable en plastique sur le dos et sa blouse boutonnée jusqu'en bas. Et à pied, il va jusqu'à l'école Léo Lagrange de Villeurbanne. Et un matin, le maître, Monsieur Grand, fait l'appel. Il écorche tous les noms arabes, comme d'habitude, et il annonce.
Ce matin, les enfants, leçon de morale.
Et là, tout y passe. Il faut être obéissant, il faut prendre soin de ses affaires, il faut respecter son maître, respecter ses parents, et il ajoute
« Quand on est un enfant bien élevé, on dit bonjour, on dit bonsoir, on dit merci aux adultes. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà venu saluer le directeur et les maîtres le matin quand ils attendent sous le préau ?»
Un peu plus tard, Monsieur Grand dit
« Par exemple, un enfant bien éduqué embrasse ses parents tous les soirs avant d'aller se coucher.
Et là, Azouz se sent tellement différent. Ça ne se fait pas chez les Begag, s'embrasser le soir avant d'aller se coucher. Ça ne se fait pas. Il ne l'a jamais fait. Et comme tous les copains du Shabbat qui sont là, au fond de la classe, il se dit « C'est tellement loin de moi, tout ça. » Je ne veux plus être différent. Je ne veux plus être faible. Je ne veux plus être un ignorant. Je veux m'extirper du fond de la classe. Et dès l'après-midi, il s'y colle. Il s'installe au premier rang, celui des enfants sages. Monsieur Grand est un peu surpris. Et ça n'est que le début. Azouz a décidé d'être le plus obéissant, conformément à la leçon de morale. Azouz a décidé de tenir un carnet du jour propre, nickel. Azouz a décidé d'avoir des ongles impeccables. Et maintenant, dès que le maître pose une question, il lève le doigt.
« Moi, monsieur ! Moi, monsieur !»
Incroyable métamorphose d'un gamin de 8 ans qui ne veut plus être différent. Et le lendemain, quand Azouz arrive dans la cour de l'école, il va droit sur le directeur et sur le maître, et je peux vous dire qu'il a le cœur qui bat.
« Bonjour, monsieur !»
Il a dit ça en leur tendant la main.
« Mais qu'est-ce que tu fais, mon petit ?»
Mais vous savez ce que c'est. Hein. Une fois qu'on a tendu la main, on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut pas la rembobiner, sauf à passer pour un imbécile. Alors il assume.
« Bonjour, monsieur !»
Et les deux hommes éclatent de rire. C'est pas de la méchanceté, hein. C'est même un rire plutôt bienveillant. Mais Azouz, lui, il veut se fondre dans la masse. Alors il a honte. Il a honte. Il est rouge comme une pivoine. Heureusement, au moment d'entrer dans la classe, le maître lui pose la main sur l'épaule.
C'est bien ce que vous avez fait, Begag. Mais il faut seulement dire bonjour. Faut pas tendre la main. Ce sont les grandes personnes qui font ça. Mais c'est très bien. Il faut être toujours poli comme aujourd'hui.
C'est exactement ça qu'il lui faut à Azouz. De la compréhension et des encouragements. parce qu'il est très motivé. À part ça, Azouz continue de faire les marchés avec son cousin et avec son frère, mais il a trouvé un travail plus juteux. Il vend des lilas qu'il va cueillir dans la forêt. Et certains jours, ça lui rapporte 30 francs. Mais ce qui est amusant, c'est que le nouvel Azouz, celui qui s'est installé au premier rang à l'école, se pose des questions. Genre, est-ce que c'est bien moral de vendre des fleurs qu'on cueille dans la forêt? Est-ce que le maître approuverait? En tout cas, depuis qu'il a pris ses résolutions, Azouz a de bien meilleures notes. Il a même décroché la deuxième place à la dernière compo de français. Du coup, un soir, la mère de son copain Nasser vient le voir à la sortie de l'école. Azouz, écoute, viens voir. Rends-moi service. Assieds-toi à côté de mon fils Nasser, pour l'aider pendant les compositions. Vous imaginez ce qui lui passe par la tête. Ça n'est pas moral, ça n'est pas honnête. Et donc il dit, ben, je me mettrai à côté, seulement si le maître accepte. D'autant plus que le maître, il a d'autres projets pour Azouz. Il a décidé de l'asseoir à côté de Jean-Marc Laville, le premier de la classe, celui qui rafle tous les bons points et toutes les images. Vous vous rendez compte de la décision de ce monsieur? Il met le petit arabe du Shabbat à côté de son meilleur élève. Il croit en lui. Et évidemment, du coup, vis-à-vis des copains du Shabbat qui sont toujours au fond de la classe, l'autre passe pour un gros faillot. Les enfants sont sans pitié. Un matin, son cousin Hassan, qui est dans la même classe, lui dit
« T'es pas arabe, toi ?»« Bah si, je suis arabe. »« Non, je te le dis, t'es pas comme nous. T'es toujours avec les Français. Faut savoir si t'es avec eux ou avec nous. Faut le dire franchement. »
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'enfance d'Azouz Begag, ancien ministre, écrivain, chercheur au CNRS, et je m'inspire pour le faire du best-seller qu'il a publié il y a plus de 30 ans au seuil, Le Gone du Shabbat, un livre que vous trouverez aujourd'hui dans la collection Point Virgule. Il sera là, bien sûr, tout à l'heure, pour le débrief de ce petit bout de son histoire. Azouz Begag a grandi dans les années 60 dans un bidonville, le Shabbat, à Villeurbanne, près de Lyon. Je vous ai raconté qu'à l'âge de 8 ans, pour aider ses parents, il faisait l'homme à tout faire sur les marchés. Et je vous ai dit le déclic après une leçon de morale à l'école. À 8 ans, Azouz décide d'être un élève modèle, de s'extirper de son destin et de s'asseoir au premier rang de la classe. Azouz a maintenant 9 ans. Et un matin du printemps 66, il se réveille sur son matelas posé à même le sol, dans la cabane, et il entend du raffut à l'extérieur. Il passe une tête enfarinée, et là, il voit les voisins, les Boudaouis, au grand complet, dehors, endimanchés façon mariage, avec autour d'eux des cartons et des sacs ficelés à la va-vite. Les Boudaouis quittent le Shabbat. Ils vont aller habiter à Lyon, dans des bâtiments. Et le père Boudaoui parle avec son père.
Si t'as oublié quelque chose, c'est pas perdu, hein. Bon, Dieu sait si je reviendrai un jour. Je préfère te laisser les choses que je laisse ici. J'ai pas besoin de tes affaires, elles mourront où tu les as laissées.
Mais non, Bouzid, je te dois quelque chose. Tu m'as accueilli ici, avec ma famille, pendant des années. Tu m'as trouvé un travail chez ton patron. Je ne t'ai jamais donné un dinar pour te remercier.
Et là, une voiture arrive, brinque-ballante sur le chemin terreux. Le taxi qui les emmène vers leur nouvelle vie. Et dans les semaines qui suivent, d'autres familles partent. Et petit à petit, le Shabbat se vide. Et au passage, évidemment, il perd de son âme l'endroit qui était si vivant avant. Et Azouz, évidemment, ça le perturbe. Et maintenant, il n'a plus qu'une idée. Décampé. Lui aussi veut habiter dans les bâtiments à Lyon. Il ne comprend pas pourquoi son père s'obstine à vouloir rester dans le bidonville. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à partir ? Le soir, comme tous les soirs, le père est assis sur une marche avec sa chique de tabac coincée dans la joue. Il écoute la radio et Azouz ose lui dire en espérant que ça ne va pas trop l'énerver.
« Papa, j'en ai marre d'être dans les baraques. Je veux déménager. Je veux déménager. »
Une fois ça passe, deux fois ça passe, mais à un moment le père se lève, il fait trois pas vers Azouz, il le prend par les oreilles, il le pince très fort.
« Tu veux déménager ? Je vais t'en donner du déménagement !»
Et il lui colle une correction mémorable. Et puis quelques jours plus tard, dans la soirée, la mère est en train de préparer à dîner des pâtes au lait, le père est branché sur Radio Alger et Azouz écoute Richard Anthony à la radio.
« Ce matin encore, c'était l'hiver, Sunny. » Que tu es là, le ciel est plus clair. Il y a du soleil dans les rues, sur les toits. Le garçon est toujours avec toi. Et je t'aime toujours, mon amour.
Et le grand frère Moustaphe se met à crier.
Hé, hey, venez voir qui arrive.
Les Bouchaouis sont devant la porte. Les parents bégags sortent sur le perron pour les accueillir.
Oh, comment ça va ? Oh, les enfants, comme ils ont grandi ! Allah soit loué !
Pour fêter l'événement, la mère d'Azouz se lance dans un couscous. Et à table, ils discutent. Les Bouchaouis racontent leur nouvelle vie, leur appartement, les robinets, l'électricité.
Tu cherches pas à partir d'ici, Bouzine ? Ah, toi aussi, t'es comme eux. Tu penses pas que je suis ici chez moi ? Je dérange personne, je dois rien à personne. Je suis bien ici. Tu crois que je vais retrouver ça ailleurs ? Tu n'as même pas l'eau dans le robinet, Bouzine. Viens voir chez moi. Tu comprendras ce que c'est que de tourner un bouton et puis d'avoir l'eau chaude. Le confort. Écoute-moi, Bouzine. J'ai trouvé un appartement pour vous à Lyon. Tout confort, près de chez moi. Tu seras mille fois mieux qu'ici. Je fais ça pour toi, Bouzine. J'ai rien à y gagner.
Et puis les Bouchaouis repartent chez eux, dans leur appartement, à pied. Et les bégags se couchent, et Azouz entend ses parents qui parlent à voix basse.
« On va aller le visiter, cet appartement. Mercredi. D'accord ?»
Sur son matelas posé à même le sol, Azouz est aux anges. Le déménagement a lieu le premier week-end du mois d'août 66. Un collègue du père est venu avec sa 403, on la charge jusqu'à la gueule, les lits et les meubles ficelés sur le toit. Le père veut emmener la cuisinière qui sert de chauffage. Il faut un peu de temps pour l'en dissuader. Il n'y croit pas à cette histoire de chauffage central. Et puis à un moment, il faut partir. Dire adieu au Chab. Le petit Azouz est là, il est planté dans la cour, il regarde une dernière fois les baraques en bois et en tôle, l'allée terreuse.
Alors Azouz, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux rester là ou quoi ? Tu pleurais pour déménager, maintenant qu'on part, tu traînes. Allez, dépêche-toi.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'enfance unique d'un ancien ministre, écrivain, chercheur au CNRS, Azouz Begag. Et je m'inspire pour le faire du best-seller qu'il a publié il y a plus de 30 ans au Seuil, Le Gone du Chaba, que vous trouverez aujourd'hui dans la collection Point Virgule. Et Azouz Begag sera là tout à l'heure pour le débrief de ce bout de son histoire. Azouz Begag a grandi dans les années 60 dans un bidonville, le Chaba, à Villeurbanne, près de Lyon. À l'âge de 8 ans, à l'école, après une leçon de morale, il décide d'être un élève modèle et de s'asseoir au premier rang de la classe. Un an plus tard, il a 9 ans et la famille Begag quitte le Chaba pour un appartement à Lyon. « Ah, ce nouvel appartement. Le rêve. Un couloir, une cuisine, un salon avec deux minuscules alcôves, des chambres et des toilettes avec une chasse d'eau. Fini la guérite branlante avec sa fosse à vider. Et pour Azouz, un nouveau quartier à découvrir. La rue Terme, la Croix-Rousse, la place Santonnet. La mère qui tous les jours s'applique à briquer le carrelage, à astiquer les chaises et la table, à nettoyer tout doucement le frigo comme si elle craignait de l'écorcher. Et puis c'est la fin des vacances, et pour Azouz, c'est la rentrée en CM2 dans une nouvelle école. À 200 mètres de l'immeuble, l'école Sergent Blandan. Et une nouvelle maîtresse, Madame Vallard. Pas très chaleureuse, hein, avec sa blouse verdâtre et ses petites lunettes rondes posées sur le nez.
Nous avons un nouveau, à ce que je vois.
Et là, tous les regards se braquent vers Azouz. La maîtresse prend son carnet scolaire, elle lit les appréciations de Monsieur Grand.
Ah, nous avons un petit génie avec nous.
Elle a dit ça avec ironie. Et Azouz l'a bien senti. Alors d'entrée, cette Madame Vallard, il peut pas l'encadrer. Et elle le lui rend bien. Quand elle remet les copies de la première composition de français, elle prend son temps, elle laisse monter l'inquiétude dans les rangs.
Azouz Begag, 17e sur 30. C'est pas terrible pour un ancien petit génie. On s'était habitué à être le premier garçon.
Et voilà comment. Et pourquoi Azouz va faire un CM2 médiocre, passable, comme on dit, au sens propre et au sens figuré, puisqu'il passe en 6e. Madame Vallard n'a pas le plaisir de l'annoncer directement à ses parents, parce qu'Azouz a tout fait pour que son père et sa mère ne soient pas au courant des réunions de parents d'élèves. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de mettre son père en difficulté, lui qui ne parle pas bien le français. Il imagine assez bien dire oui à tout ce que dit la maîtresse, sans jamais comprendre un seul mot. Alors ça lui fait de la peine. Quand il entre en 6e B au collège Saint-Exupéry, Azouz a un bon pressentiment, qui tient essentiellement à son professeur principal, Monsieur Loubon, qui, dès le premier jour, au moment de l'appel, lui pose 1000 questions.
« Vous êtes algérien, Begag ?»«
Oui, monsieur. »«
Et de quelle région ?»«
De Sétif, monsieur. Enfin, mes parents. Moi, je suis né à Lyon. »«
Eh bien, moi aussi, j'habitais en Algérie. À Tlemcen. C'est près d'Oran, vous connaissez ?»
Non, monsieur. Je suis jamais allé en Algérie.
Eh ben, vous voyez, moi, je suis français et je suis né en Algérie, et vous, vous êtes né à Lyon, mais vous êtes algérien. Je suis venu en France après l'indépendance.
Vous êtes un pied noir, alors?
Un rapatrié d'Algérie. Mais on dit aussi pied noir.
Cette conversation du premier jour va sceller entre le petit Azouz et Monsieur Loubon une sorte de connivence. Un jour après le cours, Monsieur Loubon lui donne un livre de Jules Roy. « Les chevaux du soleil ».
Vous connaissez cet écrivain?
Non, monsieur.
Ben, c'est un Algérien, comme nous. Un très grand écrivain d'Algérie.
Au fait, Azouz, je vous ai jamais demandé. Vous voulez faire quoi plus tard?
Je veux devenir président de la République, monsieur.
Cette année-là, cette année de sixième, honnêtement, les résultats d'Azouz sont moyens. Juste de quoi passer en cinquième. Mais pour la dernière rédaction, au mois de juin, le sujet est libre. Et Azouz raconte sa vie de jeune Lyonnais. 17 sur 20, premier de la classe. Et Monsieur Loubon lit son devoir devant tous les élèves. Azouz est fou de joie. Il est ivre de fierté. Il est le seul arabe de la classe devant tous les Français. Alors il ne sera pas président de la République, mais il sera tout de même ministre. Mais il sera écrivain, ça c'est sûr.
Europe 1, on de la traque. raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui, en m'appuyant sur le best-seller qu'il a publié il y a 30 ans, Le Gone du Shabbat, un petit bout de l'enfance d'Azouz Begag, ancien ministre, chercheur et écrivain. Et je l'ai fait d'ailleurs alors que sort aujourd'hui son nouveau roman, Mémoire au soleil, aux éditions du Seuil. Et Azouz Begag est là avec moi pour débriefer cette histoire. Et je veux qu'on parle de cette scène que je qualifierais presque de scène fondatrice, ce cours moyen 1 avec Monsieur Grand, qui est votre instituteur. Vous avez 8 ans et en une journée, vous prenez la décision de devenir un élève modèle. Vous passez du fond de la classe au premier rang. Est-ce que d'abord c'est grâce à lui, Monsieur Grand? Est-ce que c'est grâce à sa leçon de morale?
Non, c'est grâce à deux enseignants. D'abord Madame Gattari,
qui était l'institutrice première, d'avant.
Oui, celle de l'école maternelle. Maternelle, c'est qui m'a fait découvrir la magie de la lecture. Et ensuite, Monsieur Grand, qui m'a fait, lui, découvrir la magie de l'apprentissage des calculs, des récitations, des compositions en français. Mais les deux profs, autrement dit, ce sont les enseignants qui peuvent sortir les enfants du monde de leur Shabbat. Ce sont les enseignants, c'est clair.
Le charisme de ces enseignants, la séduction personnelle.
Oui, la bienveillance. Évidemment, on pense aussi à cette Madame Vallard,
oui, qui n'était pas bienveillante.
Qui était cruelle.
Oui. Et qui vous a planté l'année de CM2. C'est-à-dire, vous travaillez pour Monsieur Grand, pour vous, ouais, pour exister dans ses yeux, mais vous ne travaillez plus pour exister dans les yeux de Madame Vallard.
Oui, une fois j'avais fait une superbe récitation, j'avais bien travaillé à la maison pour rédiger une récitation, et elle m'a écrit sur la marge de ma rédaction « Vous avez très mal copié Maupassant ».
J'étais embarrassé. À 9 ans.
Je ne savais même pas qui était Maupassant. Et ça m'avait blessé. Parce que c'était juste moi qui avais écrit ces petites choses.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez 4 frères et sœurs. Donc on peut imaginer que, évidemment, la figure tutélaire de votre père vous ait donné cette envie de faire ce qu'il vous demandait. Puisque lui, il disait, je me tue au travail, à vous de réussir, je ne veux pas que vous soyez un ouvrier comme moi. En gros, c'est ça le message. Mais est-ce que Zora, Aïcha, Fatia et Moustaph ont eu le même déclic que vous ou pas?
Oui, ils ont réussi leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont bien installés dans leur vie. Ils ne sont pas des intellos, ils n'ont pas fait d'études, ils ne sont pas allés très loin, mais chacun est doué d'un savoir-faire technique très particulier, très singulier, qui a fait que mes frères et mes sœurs et tous les individus dans ma famille ont trouvé un équilibre personnel qui leur permet de dire aujourd'hui, non pas « j'ai réussi ma vie », mais « je me suis réussi ». C'est-à-dire, je sais qui je suis en équilibre dans cette identité. C'est cela l'essentiel dans une vie.
Alors quand on écoute ce chapitre de votre histoire, évidemment, je me dis que les réacs en concluront qu'il faut rétablir les leçons de morale et les instituteurs un peu raides à l'ancienne. Est-ce que ça serait la bonne conclusion?
Ah oui, il faut apprendre aux enfants les leçons de morale parce que ça ne vient pas comme ça. Vous ne leur apprenez pas très tôt, d'abord qu'il faut lire. Il faut bouquiner, c'est important, d'abord pour rendre fiers ses parents, puis ensuite pour réussir sa vie. Et puis à dire bonjour, à laisser passer les adultes et les personnes âgées avant vous quand vous êtes dans l'autobus, tout un tas de petits principes élémentaires qui font la bienséance des uns et des autres. Ce sont les enfants qui doivent apprendre ça, oui, je n'ai aucun scrupule avec ça.
À dire cela,
oui.
Ce que vous visez à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire se fondre dans la masse.
C'est pire que ça.
Être en haut.
Non, c'est pire que ça. Je voulais que mon père soit fier de moi. Je voulais que mon père, qui signait avec un X mes carnets de scolaires, mes carnets de notes, qui ne pouvait pas écrire son nom, ait un jour son fils qui soit premier de la classe, chez les Français, devant les Français. C'est cela que je voulais dire un jour à mon père, « Papa, regarde, je suis numéro 1 dans la classe. J'ai gagné tout le monde. C'est moi qui suis arrivé le premier. J'ai des 10 partout. »
C'est ça le moteur.
C'est ça le moteur. Mon pauvre père, ma pauvre famille de malheureux, c'était un Noël pour eux, de voir leur petit rejeton, là, qui sort de nulle part, et lui, comme les autres, devenir un très bon élève à l'école de France.
Mais il y a tout de même cette scène qui est violente. de votre cousin qui vient vous dire « Mais t'es avec qui, toi ? T'es avec eux, les Français, ou t'es avec nous, les Arabes ? Faut que tu choisisses.
» Ben oui, parce que nous, les Arabes, on est toujours au fond de la classe. D'abord, parce qu'on veut s'identifier en tant que tel. On est en 1960-65.
Oui.
On se dit « L'Algérie vient d'être indépendante, on va pas devenir Français. » Donc on reste au fond de la classe pour créer une communauté géographique et une communauté ethnique distincte. Et quand le maître dit « Nos ancêtres, les Gaulois, avaient des moustaches », tous les élèves français répètent ça, et nous on répète pas, parce que ce n'était pas nos ancêtres. Mmh. Et quand le maître dit « Notre pays, la France, a 550 000 km² de superficie », eh ben les petits Français répètent ça, et nous on répète pas, parce que c'est pas notre pays, monsieur, c'est à vous. Le nôtre, il en a 2 250 000 et il est de l'autre côté de la Méditerranée. Sauf que le petit Azouz, un jour, il dit « Notre pays, la France, a 550 000 km² de superficie. »
On vous l'a reproché, ça.
Mais bien sûr.
Parce que c'est l'assimilation dont on ne veut plus vraiment entendre parler aujourd'hui. Que toute une partie des Français souhaite, mais qui n'est plus d'actualité.
Oui, dans les années 60, c'était parce qu'on allait rentrer chez nous, au bled. Donc il n'y avait aucune raison de s'embarrasser des affluents de la Seine, de l'histoire des rois Louis et des récitations de
Paul
Verlaine.
Parce que c'était l'idée de vos parents à l'époque, rentrer en Algérie à un moment donné.
La présence en France était vécue comme un moment transitoire. Hmm. Quelques années, de quoi faire un maximum d'argent, remplir les caisses et retourner au bled, monter la maison du retour. C'est Ulysse, c'est exactement Ulysse et le retour à Ithaque. Et nous étions tous pareils, je le répète, tous nos amis italiens, portugais, espagnols, polonais étaient dans la même visée que nous. On est là pour quelques années seulement avant de rentrer à Ithaque, avant de rentrer chez nous.
Et d'ailleurs, vous ne prenez la nationalité française, vous, qu'à l'âge de 30 ans.
Exactement.
C'est-à-dire cette idée de rentrer au pays,
absolument.
Elle vous a travaillé très longtemps.
Oui, elle était toujours en moi. C'est un pays révolutionnaire, c'est un pays nouveau, un pays où il y avait des révolutions agraires, culturelles, intellectuelles, économiques. C'était un pays prometteur, c'était le nôtre. Et puis ensuite, les choses ont changé.
Ont tourné.
Oui.
Ouais.
Et on s'est rendu compte, nous, malheureusement, grandissant en France, en 1975, au moment où les 30 Glorieuses se terminent, c'est-à-dire ce cycle de 30 années de prospérité économique, 1945-1975, 15 prenant fin à cause de l'augmentation du prix du pétrole par les pays
crise.
Oui, par les pays producteurs, on se rend compte qu'on a 18 ans et que on est en plein racisme parce que il y a la crise, il y a du chômage et les Français désormais nous regardent comme des étrangers bourrés aux as parce qu'ils ont des puits de pétrole dans leur pays et qui continuent à nous enquiquiner ici.
On va marquer une nouvelle pause et parler de Monsieur Loubon, qui est donc cet instituteur qui vous dit « Je suis algérien comme toi ». Et ça, c'est un moment qui raconte l'histoire de la France à ce moment-là, mais qui est un moment intéressant. Après la pub.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui, en m'appuyant sur le livre qu'il a publié il y a 30 ans, « Le Gone du Chaba », un petit morceau de l'enfance d'Azouz Begag, ancien ministre, chercheur au CNRS, écrivain, qui publie d'ailleurs aujourd'hui un nouveau roman, Mémoire au soleil, qui paraît aux éditions du Seuil, et qui est le récit de la figure tutélaire de votre vie, qui est votre père, Bouzid, dont on a un peu parlé dans cette histoire, parce que il est central et que c'est pour lui faire plaisir, pour lui rendre honneur, que vous avez fait la carrière que vous avez faite. Avant de passer à Monsieur Loubon, qui était la promesse d'avant la pub, je veux qu'on reste deux secondes sur cette histoire d'assimilation qui était votre projet. Vous êtes un migrant, un fils de migrant assimilé, plus français que les Français. Mangez pas halal.
Non, mais surtout, le plus important, c'est que je suis obsédé des compléments d'objets directs. C'est ça le plus important, je suis fou des compléments d'objets directs.
Oui.
Donc... Et quand à la télévision, à la radio, dans la rue, les gens font des fautes d'accord, je bondis. Ma francité sort de moi.
Est-ce que l'assimilation, comme vous l'avez vécu, vous, est encore jouable aujourd'hui ?
Non, elle n'est plus jouable. Parce que les temps ont changé, en particulier depuis quelques années, avec l'apparition du terrorisme islamiste. Les choses ont complètement changé. La crise est toujours là, la crise économique, et la crise identitaire s'est installée. Les politiques ont joué sur ces leviers que constituent les peurs, les angoisses identitaires. et on est mal barré pour quelques années encore. Donc de ce point de vue-là, je suis relativement pessimiste, mais quand on se demande à quoi ça sert d'être pessimiste, à rien du tout, il vaut mieux, comme nous le faisons, rester optimiste et trouver les portes, les échapper pour pouvoir trouver de l'oxygène pour cette identité française.
Parce que ça fait partie des choses qu'on vous a beaucoup reproché dans votre carrière à la fois politique, de polémiste, de débatteur, c'est d'être le défenseur d'une assimilation, alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne pourra pas aller plus loin que l'intégration et qu'au fond, les Arabes de France resteront des Arabes de France et ne deviendront jamais véritablement des Français.
Oui, non, mais c'est un vrai problème. Notamment s'ils gardent leur nom et leur prénom. Et moi, je trouve vraiment terrible qu'une société démocratique puisse contraindre ses citoyens à changer leur prénom, à ne plus s'appeler Rachida, Karim, Mohamed, mais d'adopter des noms catholiques, chrétiens, pour pouvoir mieux se glisser dans le courant général et pouvoir, en fait, devenir invisible comme le furent nos parents. Il ne faut pas aller dans cette direction. Au contraire, je crois que l'affirmation identitaire des uns et des autres, mais pour le bien de la société en général, pour le bien d'une société française multiculturelle, c'est cela qu'il faut faire, sans perdre les traces avec ses racines personnelles. On est capable de fabriquer un tronc commun avec la France et donner des branches magnifiques avec des feuilles magnifiques. C'est pour ça que je réponds à tous les Français qui se vantent d'être des Français de souche, que nous sommes des Français des branches et qu'ensemble, nous formons un bel arbre démocratique qui doit être, au plan mondial, prestigieux.
Alors la scène avec M. Loubon, où il vous dit « Moi aussi, je suis d'Algérie, je viens de Tlemcen ».
Magnifique.
Elle est troublante aujourd'hui quand on la lit avec du recul parce que certains diraient Monsieur Loubon était un colonial et il n'y avait pas d'accord possible entre Begag, le fils d'immigré algérien, et Monsieur Loubon, le colonial. Et pourtant, il y a eu un accord.
Il y en a tous les jours. Dans mon dernier livre, là d'ailleurs, Le Mémoire au Soleil, je raconte une histoire aussi truculente, une petite histoire entre Algériens. Quand je rencontre Enrico Macias, on parle algérien, on chante algérien. On rigole algérien, on a la même gueule. Et quand je lis Albert Camus et quand je voyais Albert Camus, on avait lui et Albert et Mouloud Feraoun en particulier, l'écrivain du Fils du pauvre, étaient des frères. Aujourd'hui, je trouve c'est très important de reconstituer avec les Juifs d'Algérie, avec le pied noir d'Algérie, une histoire commune entre Algériens. C'est ce que Georges Morin, là, s'il m'écoute, le patron du Salon du Livre, du Maghreb des Livres, qui s'est tenu récemment encore à Paris, essaye de construire depuis 20 ans une société maghrébine faite de toutes ces compositions, de toutes ces composantes religieuses et ethnique, et c'est cela vers lequel il faut aller, autour de la notion de méditerranéen, parce que nous sommes avant tout des méditerranéens.
Nous ?
Ouais.
Tous ?
Pas tous, non. Vous, par exemple, vous ressemblez plus à un type du Nord. un type du Nord qu'à un méditerranéen. Mais oui. Nous, les Maghrébins, quand on va en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, on a la même gueule que tous les autres. On fait vraiment une fraternité autour des philosophes grecs,
c'était
par exemple.
C'était le rêve de Sarkozy, de composer cette union
pour la Méditerranée. Oui, l'union pour la Méditerranée, oui, dont le président marocain Fatallah Sijelmassi a terminé le mandat hier.
Oui,
ouais, c'est une belle idée.
Vous avez ça en commun avec Sarko, au moins.
Non.
Ben si.
C'est moi qui lui avais suggéré l'idée.
C'est vrai?
Non.
Non. Qu'est devenu Jean-Marc Lavil? Parce que ça m'intéresserait vraiment. Est-ce que vous le savez?
Non, je ne
donc
le sais pas.
Donc Jean-Marc Lavil, c'est donc le meilleur élève de la classe. Et l'instituteur vous fait asseoir à côté de lui, ce qui est vous offre une chance extraordinaire, et qui est une manière de dire, de vous mettre à égalité tous les deux.
Très juste, très juste. Et immédiatement me vient à l'esprit le nom de Richard Descoings, feu Richard Descoings, l'ancien patron de Sciences Po Paris, qui dans les années 2000 avait construit des ponts, des conventions entre les lycées des ZEP, oui, dans les cités en difficulté, et Sciences Po, pour essayer de faire mettre ensemble Azouz Begag, le fils du prolo des bidonvilles, et Jean-Marc Lavil, le fils du boulevard Saint-Germain. C'est comme ça qu'il faut travailler, pour que les uns et les autres prennent confiance dans leur association.
Alors si quelqu'un connaît Jean-Marc Laville, qui donc était à l'école, comment s'appelait-elle ?
Léo Lagrange.
Léo Lagrange, et qui avait comme maître Monsieur Grand, si quelqu'un connaît Jean-Marc Laville, ça serait formidable que vous le retrouviez, que vous posiez vos vies côte à côte.
je suis pas sûr qu'on ait eu la même histoire et qu'on a encore des éléments pour échanger. Mais je dois préciser que quand j'étais petit aussi au CE1, CE2, l'école du sergent Blandan relatait, le sergent Blandan était un soldat qui avait 18 ans et qui est mort en Algérie pendant la colonisation en 1842. Il a été tué par mon grand-père, sans doute, alors qu'il faisait une sortie. Et tout de suite derrière, l'école Saint-Exupéry, peut-être est-ce Antoine de Saint-Exupéry qui m'a emmené vers le monde de la littérature aussi, avec l'histoire des moutons.
Dans votre histoire, vous dites à un moment à Monsieur Loubon qui vous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, vous lui dites « Je veux être président de la République ».
C'est vrai.
Vous n'êtes pas arrivé à être président de la République, mais vous avez été ministre, 2 ans. Est-ce que pour vous, c'est le top de votre réussite ?
Non, je ne mets pas toutes ces expériences dans des domaines différents sur le même plan. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui serait mieux que l'autre. J'écris des scénarios pour le cinéma, j'adore ça, je place l'excitation que cela me procure au même niveau que d'avoir été ministre pendant 2 ans. Mmh. Cependant, je crois que j'ai ouvert la voie et j'ai ouvert les géographies mentales de tout un tas de jeunes dans les cités qui désormais veulent aussi être ministres et non plus seulement ressembler à Karim Benzema, notre buteur du Real Madrid.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.